Séance du conseil municipal du jeudi 15 décembre 2016.
Annulé. Donc je vais vous lire le projet, hein, qui est un peu long. Donc, par délibération du 21 décembre 2011, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Par délibération du 10 novembre 2015, le conseil municipal a engagé la révision générale de son plan local d'urbanisme, avec notamment comme objectif d'envisager l'opportunité et la faisabilité de nouveaux projets publics, privés, tels que la réalisation d'opérations de logement, d'aménagement touristique, etc., et logements sociaux dans le secteur des ferrailles. Lors de cette même séance du 10 novembre 2015, le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD, hein, notamment visant à maîtriser le développement urbain et résidentiel et maintenir la croissance démographique autour de pôles existants et favoriser la mixité sociale. Par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2016, la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le PLU a été annulée partiellement, donc en tant qu'ayant approuvé les modifications apportées après l'enquête publique constituée par la modification de la réglementation de la défense de la forêt contre l'incendie dans les zones UNUT de la zone UCF2. Et des extensions dans les secteurs indice F2, la suppression de la référence service dans les zones UNR, UT et UE. Donc, on rappelle également que le programme local de l'habitat de la commune d'agglomération Ventoux-Contavenay-Saint, approuvé le 22 février 2007, révisé le 3 mars 2014, identifie dans son programme d'action le secteur des ferrailles afin d'y réaliser un programme de 50 logements, dont 25 sociaux. Une convention opérationnelle d'intervention foncière multiservice en vue de la réalisation de programmes d'habitat mixte a été signée le 1er février entre la Corve et l'établissement public foncier PACA-EPFR. Depuis, le PFR a acquis les parcelles cadastrées section H 1604 et 1797 du quartier des Ferrailles, zone UCPL du PLU, le 1er août 2012 et le 25 septembre 2014 pour une surface d'environ 1 hectare 4. Le PFR a consulté des opérateurs logements en vue de la cession d'un tenement foncier pour la réalisation d'une opération d'habitat mixte. À ce titre, la commune a retenu la société Sud Invest comme opérateur et Grand Delta Habitat comme bailleur social sur la base d'un programme de 45 logements sociaux locatifs. Au PLU, le site est grevé d'un emplacement réservé. On retrouve les emplacements réservés. Donc numéro 10 pour la réalisation d'une aire de stationnement et d'une servitude de mixité sociale L3, prévoyant la réalisation d'un programme de logement comprenant un minimum de 45 logements, dont un minimum de 25 logements à loyer maîtrisé, financés par des PLUS et ou PLAI. L'opération devra comprendre un minimum de 50 logements de type T2 et ou T3. Certaines dispositions du règlement de la zone UCPL contraignant fortement les possibilités du projet, notamment celles relatives à l'implantation des bâtiments précisées aux articles UC7 et UC5 ainsi que le règlement de hauteur des bâtiments, une procédure de modification du PLU est rendue nécessaire pour adapter le règlement de la zone afin de faciliter la mise en œuvre de l'opération d'habitat mixte précité. Cette modification du PLU visant l'évolution du règlement d'une partie de la zone UCPL peut revertir d'une forme simplifiée au titre de l'article L153-45 du Code de l'urbanisme, car ces évolutions ne sont pas de nature à majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une zone de l'application de l'ensemble des règlements du plan, diminuer ses possibilités de construire ou réduire la surface d'une zone urbaine ou agglomérée. Monsieur le maire ajoute que par arrêté du MARE-2016-382-2019-septembre, la modification simplifiée numéro 1 du PLU du Bédouin a été prescrite. Par délibération MADEL-2016-091 en date du 26 septembre, que le Conseil municipal définit les modalités de la mise à disposition du public suivant. La mise à disposition du 10 octobre au 10 novembre du projet de modification de l'exposé de ses motifs et le cas échéant des avis émis par les personnes publiques associées. La mise à disposition d'un registre durant toute cette période au jour et aux heures ouverture habituelle de la mairie et au prix du service urbanisme, c'est-à-dire les lundis, mardis, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h à 12h et le samedi de 8h30 à 12h, permettant au public de formuler ses observations. La mise en ligne durant cette période de la libération du dossier de modification simplifiée numéro 1 sur le site internet de la commune. Un avis de presse concernant la prescription de la modification simplifiée numéro 1 du PLU du Bédouin et un second concernant les modalités de mise à disposition sont parus dans les journées Vaucluse Matin en date du 23 septembre et du 11 octobre 2017. Une insertion de la délibération du 26 septembre 2007 du dossier de notification simplifiée sur le site d'internet de la commune a été opérée le 3 octobre. Un affichage a été effectué dans le hall de la mairie, sur le site des ferrailles, sur les panneaux lumineux de la commune, portant sur la mise à disposition de la modification simplifiée numéro 1 du plan d'urbanisme. Un article a été rédigé sur l'opération des logements sociaux locatifs pour tous au quartier des Ferrailles dans le journal municipal d'information Le Passadou distribué le 5 octobre. Par ailleurs, le dossier de modification simplifiée a été notifié aux personnes publiques associées fin septembre 2016 et à ce titre, le 26 septembre, le CNPF a accusé la bonne réception du dossier de modification. Le 28 septembre, la Chambre d'agriculture du Vaucluse a informé la commune que le projet de modification porte sur l'adaptation des dispositions de la zone UCPL afin de garantir le projet d'habitat social. Il ne présente pas d'enjeu pour la zone agricole. Par conséquent, la Chambre d'agriculture n'a pas de remarques à formuler. Le 7 octobre, le préfet de Vaucluse a formulé les observations suivantes. La délimitation des secteurs de mixité sociale est très encadrée par le code de l'urbanisme. Ces secteurs ne peuvent revêtir que la forme de secteur à pourcentage en application des dispositions de l'article L151-15 du code de l'urbanisme ou d'emplacement réservé selon le terme de l'article L-41-4 aussi pour sécuriser la procédure de modification simplifiée et par voie de conséquence les logements qui seront autorisés sur cette base. Il est vivement conseillé à la commune de fonder un sous-secteur UCPLS sur l'un des outils de mixité prévus par le code de l'urbanisme. Deuxièmement, sur la formule pour justifier la marge de recul de 2 mètres inscrite au document de graphique, le dossier se fonde sur la disposition du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 et vise l'article R151-11 du code de l'urbanisme. Par conséquent, la marge de recul de 2 mètres définie au code de graphique ne peut se fonder que sur la disposition antérieure au décret du 28 décembre 2015, c'est-à-dire sur l'article R123-11 du code de l'urbanisme. Le 12-10-2016, le conseil régional a accusé réception du dossier modification simplifiée numéro 1 du PLU de Bédouin. Le 27-10-2016, le syndicat mixte du Cantavanto a pris acte des éléments transmis et se réjouit de ce projet qui suit toute fin le sens des grandes orientations du SCOT de l'art Cantavanto en matière d'anticipation et en termes de production, logements sociaux ainsi que du programme local de l'habitat de la Corse. Monsieur le maire ajoute que la mise à disposition telle que définie par la délibération du 26 septembre s'est déroulée du 10 octobre au 10 novembre, aux jours et aux heures habituelles de la mairie et auprès du service urbanisme. On rappelle les horaires. À ce titre, le bilan suivant de la concertation peut établir. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été mis à disposition du public pendant un mois, selon les modalités définies par le conseil municipal du 26 septembre 2016. À disposition le dossier de modification simplifiée du plan d'urbanisme et d'un registre permettant au public de formuler ses observations. La mise en ligne de la délibération du 26 septembre et du dossier de modification simplifiée sur le site de la ville. 6 avis ont été consignés dans le registre mis à disposition, dont il ressort essentiellement une inquiétude de voir le projet dénaturer l'ensemble du quartier et les vues vers les collines de Ventoux du fait de l'augmentation de la hauteur de 7,50 m à 9,50 m. L'article UC10, hauteur maximum des constructions, permet une hauteur ne pouvant excéder 7,50 m à l'égout et 9,50 m au faîtage, puisque le terrain est caractérisé par un léger dénivelé, pente de 3%, montante du sud vers le nord. L'opération de la réalisation des logements sociaux nécessitera un léger remodelage du terrain sous forme de palier. Dans ces conditions, la hauteur des constructions calculée depuis le terrain naturel jusqu'à l'égout du toit a été augmentée de 50 cm. Pourtant, il sera précisé, afin de garantir la typologie de la zone à dominante résidentielle, que les constructions ne pourraient excéder de niveau, soit un rez-de-chaussée plus un étage. Dans les interrogations concernant les distances par rapport aux limites impératives, la commune ne souhaitant pas développer les constructions du type locatif comme la Carita, compte tenu de la typologie du quartier, la réalisation de villas individuelles a été retenue. Pour permettre la réalisation de 45 logements, le projet s'est étendu sur toute la parcelle, obligeant la modification de l'article UC7, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de 4 mètres à 3,50 mètres, soit une différence de 50 cm, ou à 2 mètres une portion limitée et identifiée au document graphique. Une préoccupation concernant l'aspect visuel vis-à-vis du cône de vue. Le PLU de Bédouin a défini un cône de vue avec notamment des secteurs indicés H dans lequel la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres à l'égout et 6 mètres au faîtage. Le quartier des Ferrailles n'est pas concerné par ce cône de vue. En revanche, il se situe dans le périmètre de servitude AC1 correspondant au périmètre des 500 mètres du champ de visibilité par un monument historique, église paroissiale Saint-Antonin et Saint-Pierre, inscrit par arrêté du 8-10-1984. Les futures autorisations seront donc soumises à l'architecte des bâtiments de France. Monsieur le maire présente la modification simplifiée approuvée qui se peut les pièces suivantes, le rapport de présentation, le zonage, le règlement et la nouvelle liste des règlements des emplacements réservés, donc le document qui vous a été donné en début du conseil municipal. Monsieur le maire explique qu'en outre, diverses corrections d'erreurs matérielles effectuées à la relecture, les modifications ou précisions qui procèdent de la mise à disposition du public seront décrites ci-après. Dans le rapport de présentation, la partie 4.2 règlement a été complétée pour préciser le changement apporté par la modification simplifiée numéro 1 du PLU. La mention de l'article R551-11 du Code de l'urbanisme sera remplacée par celle de l'article R123-11 de l'ancien Code de l'urbanisme avec une note de bas de page expliquant que la réduction de l'article R151-11 du Code de l'urbanisme est issue des dispositifs du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015. Or, les mesures transitoires du décret article 12-6 ne permettent pas d'appliquer cet article à la modification simplifiée du PLU de Bédouin dès lors que ce dernier a été approuvé antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret. Par conséquent, la marge de recul de 2 mètres définie au document graphique ne peut se fonder que sur les dispositions antérieures au décret 28 décembre, c'est-à-dire sur l'article R123-11 du Code de l'urbanisme. Dans le règlement, l'article 2, occupation et utilisation du sol, est soumise à la condition particulière du sous-secteur issu de l'ALS, est complété pour indiquer que 100% des nouvelles constructions seront des logements sociaux, conformément à l'article L151-15 du Code urbain. L'article 10, hauteur maximum des constructions, précise que pour garantir la typologie de la zone à dominante résidentielle, les constructions ne pourront excéder deux niveaux, soit du R+1. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'ordonnance 2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, portant clarification et simplification des procédures de délibération, modification et révision des documents d'urbanisme, vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L153-36, L153-37, L153-40, L153-45, L153-47 et L153-48, vu la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2011 approuvant le PLU, vu la délibération du 10 novembre 2015 prescrivant la révision générale du PLU et présentant les grandes orientations du PADD débattues en conseil municipal, vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 mai 2016 annulant partiellement la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le PLU, vu l'arrêté du maire du 19 septembre 2016 engageant la modification simplifiée du PLU, vu la délibération en date du 26 septembre 2016 définissant les modalités de disposition du public, vu la fusée de réception du dossier CNPF en date du 26 septembre 2016, vu l'avis de la Chambre de la Culture en date du 28 septembre 2016, vu l'avis du préfet de Vaucluse en date du 7 octobre 2016, vu l'accusé de réception du dossier du conseil régional en date du 12 octobre 2007, vu l'avis du syndicat mixte du Ventoux en date du 27 octobre 2016, vu le registre mis à disposition du public du projet de modification simplifiée tenu en mairie du 10 octobre 2007 au 16 novembre 2016, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification simplifiée numéro 1 du PLU de Bédouin comme proposé par M. le maire, de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal département d'annonce légale.
Très bien, mais merci pour ce grand moment de bravoure. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce dossier ?
Non, pas forcément mes questions, mais nos interrogations que vous avez soulevées la dernière fois, donc, concernant l'intégration paysagère, se retrouvent dans les avis. Pour moi, personnellement, ça n'a pas changé aussi. Je suis content qu'effectivement, on retrouve ces remarques qui inquiètent une partie de la population. Effectivement, on peut se poser des questions sur le visuel, sur le rendu que l'on aura, sur le quartier, mais également sur le bâti. Voilà.
D'accord.
De plus, comme on a souligné la dernière fois, vu qu'on n'est pas encore sous des contraintes et des obligations d'État, donc notre avis, quoi, du moins mon avis n'a pas changé là-dessus.
Très bien. Je vais faire rapide, effectivement, mais ça ne m'étonne pas. Je crois que le principe d'un gestionnaire, c'est de prévoir. Et je pense que quand on est à 3300 habitants, comme nous le sommes aujourd'hui, avec ceux qui se construisent, ceux qui se déposent, hein, parce qu'il y a quand même des lotissements qui vont s'ouvrir, on va mettre très rapidement à cette échéance de 3500. Et donc, à un moment donné, je pense que du jour au lendemain, entre le 1er janvier et le 31 décembre, on n'aura pas la possibilité de construire les 263 logements qui sont normalement prévus pour une commune de la taille de la nôtre, puisque vous savez que c'est calculé en fonction des logements existants au-delà des 3500. Donc, oui, effectivement. Je crois que c'est une mesure sage. Ensuite, les contraintes paysagères, nous y avons été attentifs. D'ailleurs, nous avons eu l'ABF et nous avons encore un rendez-vous avec l'ABF dans les débuts janvier, je ne me souviens plus, le 12 ou le 15, après le 10. Voilà, le 10. Et donc, on y apportera un souhait particulier. Je voudrais vous faire remarquer tout de même que nous sommes sur un terrain qui sera un terrain mixte, et c'est-à-dire qu'il y aura une partie, bon, vous avez refusé aussi la dernière fois d'en approuver l'achat et l'agencement, donc ce sera quand même quelque chose qui sera beaucoup plus aéré que ce que cela aurait pu être dans le cas même d'une vente à un privé qui aurait cherché à en tirer une densité maximale. Et puis, mais je crois qu'on va essayer de faire pour le mieux. Hein. Après, on jugera du résultat. Mais donc, à ce jour, on assume parfaitement le fait d'anticiper de quelques mois, on va dire, voire d'un ou deux ans, et justement de préparer l'avenir de la commune. Merci. D'autres questionnements ? Je le mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ? 5, d'accord. Des abstentions. Je vous remercie. Monsieur Petit, numéro 2, la modification numéro 1 bis, s'il vous plaît. À vous. À nouveau.
Donc, le PLU de Bédouin a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 21 décembre 2011. Depuis l'approbation du PLU, le contexte législatif a évolué avec notamment les lois pour l'accès au logement et en urbanisme rénové, dite loi Allure du 24 mars 2014, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dite loi 3AF du 13 octobre 2014, et pour la croissance de l'activité, l'égalité des chances économiques, dite loi Macron du 6 août 2015. Et la révision générale du PLU a été engagée par délibération du Conseil municipal le 10 novembre 2015, conformément à l'article L153-33 qui prévoit que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable prévu par l'article L153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision de son plan local d'urbanisme. Le conseil municipal a débattu des orientations du PADD lors de cette même séance du 15 novembre 2015. Les orientations générales suivantes ont été proposées. Orientation numéro 1, affirmer le rôle de ville-centre, cœur économique du Mont Ventoux, soutenir les activités touristiques, développer les activités économiques. Orientation numéro 2, maîtriser le développement urbain et résidentiel, maintenir la croissance démographique autour des pôles existants, éviter la surdensification, développer les équipements nécessaires. Et orientation numéro 3, protéger les espaces naturels et agricoles, valoriser la trame verte et bleue, protéger l'environnement remarquable, préserver les paysages, prendre en compte les risques naturels. Par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2016, la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le PLU a été annulée partiellement en tant qu'elle a approuvé les modifications apportées après l'enquête publique constituée par la modification de la réglementation de la défense de la forêt contre l'incendie des zones UT et UN de la zone UCF2, des extensions dans les secteurs indice F2 et la suppression de la référence service dans les zones UNR, UT et UE. Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de mettre à jour les servitudes suite à la déclaration de la régulation de la protection du réservoir sur Antonin par le syndicat mixte des eaux de la région Grande-Ventoux de modifier certaines dispositions réglementaires afin d'intégrer le risque de ruissellement, les dispositions de la loi Allure et l'article 80 de la loi Macron relatif à la construction, la constructibilité, pardon, en zone naturelle, agricole et forestière des extensions et annexes des bâtiments d'habitation, sans toutefois porter atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme approuvé. Dans ces conditions, M. le maire ajoute qu'une modification du PLU pourrait intervenir dans le cadre de l'article L153-36 du Code d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement, la programmation ou le programme d'orientation. Donc, vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L153-36-37-40 relatifs à la procédure de la modification du PLU, vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles R153-20-21 relatifs aux mesures de publicité et d'affichage, vu le plan d'urbanisme approuvé par la délibération du Conseil municipal du 21 novembre 2011, vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 novembre 2015 engageant la révision générale du PLU et relative au débat sur la présentation générale du projet d'aménagement et développement durable du PADD, vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel du Marseille du 26 mai 2016, considérant que cette modification sera engagée par arrêté du maire conformément à l'article L153-37 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification est engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de modification. Il est demandé au conseil municipal de confirmer la nécessité de modifier le PLU pour tenir compte du risque de ruissellement, des lois pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal département d'annonce légale. Donc voilà pour la délibération. Vous avez donc en annexe, l'engagement de la modification, donc un petit document qui vous redit ça, donc avec un préambule sur les dates qu'on a vues, le 21 décembre 2011, l'approbation du PLU, le 10 novembre 2015, la mise en révision du général du PLU, le jugement de la Cour administrative de Marseille. Donc voilà le préambule. Après, un sommaire avec donc la loi Allure, la loi 3F et la loi Macron, le risque du ruissellement. Donc, avec un petit descriptif en page 4 sur la loi Allure, donc ce qui est l'impact. Un exemple de ce que pourrait être la loi Allure en zone, on a pris la zone UD, page 5, donc ce qui était au PLU approuvé, ce qui est possible au PLU avec la loi Allure, entre parenthèses, ce qui aurait été possible avec cette même loi dans la zone UC dont on vient de parler, c'est-à-dire au quartier des Ferrailles. Donc on aurait pu avoir une densification telle qu'on la voit en haut à droite dans le petit carré de la page 5. Donc avec les emprises possibles de la loi Allure, page 6, ce qu'on propose effectivement, ce qui fait partie de l'emprise au sol, ce qui fait partie des espaces verts, ce qui peut être espace libre, les potagers, donc ce qui est pris en compte dans les différentes sous-sections, avec donc ce qui est bétonné, ce qui ne l'est pas, ce qui est imperméabilisé, ce qui ne l'est pas. Donc la loi. Après, on passe, si vous voulez, directement à ce qui est possible maintenant, ce qui sera possible dans les zones A et N, donc page 8, et donc les secteurs à ruissellement sur la page 9, donc ce qui est prévu pour éviter qu'effectivement les collines descendent sur une sururbanisation, qu'on retrouve tout sur le cours à Bédouin. Donc voilà ce qui va être donc décliné dans le document. Et au mois de janvier, on aura ce qui avait été donc déjà engagé suite à ce que nous avions voté en avril ou mai, je ne sais plus exactement, donc avec saisine du tribunal administratif pour avoir un commissaire enquêteur, tout le règlement envoyé aux personnes publiques associées, recueil de ces avis-là, enquête publique, CDPNAF, donc tout est remis, tout repart donc à zéro début janvier 2017, une fois que nous aurons et voté et que Monsieur le maire aura pris l'arrêté dans les jours qui viennent.
Ça, si j'ai bien compris, c'est une partie été reprise par rapport à...
Ça, c'est l'exemple que vous voulez donner ce soir. Tu parles de ce document. Donc après, on aura à nouveau, on représentera à tout le monde le règlement de toutes les zones. La zone A,
c'est quoi les raisons de le faire en deux points?
Comment ça? Aujourd'hui, on a simplement donné... Ça, c'est un document de travail. Voilà. Après, aujourd'hui, on a la délibération qui engage la modification du règlement du PLU. Monsieur le maire prendra un arrêté. Et après, nous aurons tout le règlement qui sera à disposition du public, de toutes les personnes.
La question, l'autre fois, c'était... On avait tout fait d'un bloc. Non.
On était sur la même procédure, approbation du principe, d'accord, et ensuite on aurait fourni, de toute façon, le document.
Après, on a été arrêté par le fameux arrêté de la Cour d'appel.
Il me semblait, à tort, qu'on avait fait tout d'un bloc. Quoi. On n'avait pas fait d'abord la phase réglementaire et ensuite le PLU. Quoi.
Oui, mais c'est tout du réglementaire.
On ne change que le règlement du PLU. Oui. On est bien d'accord. On est toujours sur l'idée de refaire le règlement du PLU. Il n'y a pas d'extension de zone. Il n'y a pas de... Voilà. Ce qui a été détaché simplement de la révision du PLU, c'est le secteur des ferrailles, puisqu'il y avait, par rapport aux engagements qui étaient pris du bailleur social, de l'EPFR qui à un moment donné ne peut plus porter les terrains au-delà d'une certaine période. Donc on a fait la modification simplifiée sur le secteur des ferrailles, donc le secteur UCPL social, donc sous-secteur, et maintenant on engage ce qu'on avait engagé à la fin du printemps, donc la révision du règlement du PLU avec toutes les zones. Et on y adjoint ce qu'on nous a demandé de faire, puisque c'est sorti en même temps, c'est d'avoir un œil sur les fameux ruissellements, donc qui va venir conforter certains secteurs, la protection, c'est-à-dire que les gens vont être obligés, par exemple, de garder leurs eaux de pluie à certains endroits sur leur propre terrain et ne pas l'envoyer dans la rue. Mais on sera amené à revoir tout le règlement, zone par zone, le règlement de la zone A, de la zone UA, UB, UC, UD, les zones agricoles, la zone naturelle, ce qui va être possible de faire et de ne pas faire.
Parce que, donc là, on se met en conformité avec les lois Allure et Macron, il y a quelque chose qui me gêne un peu pas pour la loi Allure et Macron, c'est... Dans l'orientation numéro 3, valoriser la trame verte et bleue. Dans ce document, on n'en parle pas.
Non, ça c'est simplement un document de d'approche. On a aussi qu'un exemple sur la zone UD. On n'a pas. Donc voilà, c'était simplement pour dire ce qu'on allait trouver dans le document général.
Mais dans la prochaine modification. Trame verte et bleue, je pense que vous en êtes inquiété.
Mais un peu quand même, puisque. Oui.
Donc il va falloir faire très attention dans le zonage, parce que le zonage des PLU antérieurs, c'était. On s'occupait que de la zone constructible, en gros. On ne s'occupait pas des espaces agricoles. Tandis que maintenant, dans les nouveaux PLU, il y a toute la zone qui. Y compris les zones qui ne sont pas construites. Donc les trames vertes et bleues font partie intégrante. Il faudra faire très attention. Et je pense que ce serait bien de faire des réunions avec les professionnels de l'agriculture pour bien expliquer les enjeux, les tenants et les aboutissants des changements pour qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Par rapport à ce qu'on nous demande, à minima, parce que on ne pourra pas. Ça va impacter et influer sur le devenir des zones agricoles dans l'avenir et pour X années. Par exemple, on ne pourra peut-être pas forcément changer de culture, parce que certaines zones seront des carrés bois et compagnie. Pour les remettre en culture, ça sera très compliqué. Donc je pense que vous êtes renseigné là-dessus. Que vous avez
Mais pour l'instant, le zonage. Tel qu'il a été voté en 2011, il n'est pas prévu.
C'est prochain.
Ou alors je ne le connais pas, le nouveau PLU.
C'est dans le prochain.
Non, mais il n'est pas on va travailler sur le règlement. Oui. Pour l'instant, on n'a jamais dit que 3 hectares de la zone A allaient passer en zone naturelle.
C'est pour les trames vertes et bleues.
Parce qu'on va te demander d'intégrer les trames vertes et bleues. Donc, oui, tu vas recevoir le plan de la commune avec des zones qui sont déjà en trames vertes et bleues. Il faudra faire très attention. On n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'on va nous proposer.
Bien sûr.
Ce qu'on va nous proposer, ça sera contre nous.
Oui, alors attendez quand même. Là, on a pris.
Non, je croyais que.
On a pris tout.
Tu pensais qu'on allait changer de.
Non.
Déplacer de.
Pas du tout. C'est ce qu'on va nous imposer pour intégrer ces trames vertes et bleues. Ça risque d'être très contraignant dans certaines zones pour l'agriculture, surtout.
Alors, ces trames vertes et bleues, effectivement, la question a été soulevée depuis longtemps, d'ailleurs. Donc, au sein de la COV en particulier, et donc en particulier par Gilles Lebeuf, qui est le vice-président en charge du SCOT, et qui a été donc lui aussi un élu agricole, qui est toujours agriculteur, et qui va bien, d'ailleurs, qui est en bonne santé, malgré quelques avatars. Et par contre, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture là-dessus, et ces trames vertes et bleues, elles se font à l'échelle du SCOT. Hein, de la même manière, avec, par exemple, sur le plan local de l'habitat, donc on travaille maintenant, et d'ailleurs on aura bientôt une décision à prendre, justement, pour qu'on reste quand même chacun maître de notre PLU, qu'on ne tombe pas dans le PLU intercommunal, mais pour certaines opérations, effectivement, ça se gère collectivement et avec les professionnels, mais c'est exactement ce qui a été demandé, quoi. On a tous une conscience environnementale, on est tous soucieux de notre devenir, déjà, de celui des générations qui nous suivent, on est tous soucieux de notre qualité de vie, mais néanmoins, à un moment donné, il faut trouver la juste part des choses. Que l'on prenne des précautions, certes, mais que l'on ne se trouve pas à un moment donné, et ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, qu'on ne se trouve pas à un moment donné trop enferré, trop enfermé, par des excès qui parfois apparaissent, certains groupes de pression en font même une spécialité ou un cheval de bataille. Quoi.
Non, mais ça
merci de nous le.
Corridor écologique.
Oui.
Non, on citait des exemples pour que tout le monde comprenne. Vos professeurs. Il y a certaines zones qui ne sont plus cultivées depuis 10 ou 15 ans, qui sont éclatées en zone naturelle, en bois, avec le passage de mammifères, qui rampent et tout ce qu'on veut. Demain, on ne pourra plus les utiliser en surface agricole. Ouais. Une surface qui n'est pas utilisée aujourd'hui en surface agricole, pour X raisons, ça ne veut pas dire que dans 10 ou 15 ans, elle ne sera pas utilisée. C'est par rapport au réseau d'irrigation qui évolue et compagnie, donc il faudra faire très attention de ne pas tomber dans ce piège. C'est tout ce que je veux dire, moi. Donc, il faudra se mettre au moins
oui.
Possible. Voilà, tout simplement. On verra lorsqu'on aura le zonage envoyé par la préfecture.
Oui, par la préfecture.
Il faudra faire très attention. Voilà. C'est pas parce qu'une terre aujourd'hui n'est pas travaillée et inculte depuis 10 ans que demain elle ne le sera pas. On a des exemples inverses, mais on peut de même peut-être avoir des surfaces agricoles parce que la terre agricole va manquer dans l'avenir.
Surtout plus.
Petit département, donc il va faire toute attention de ne pas, mis à part les constructions, de ne pas sanctuariser des zones qu'on ne pourra plus cultiver par rapport à certaines décisions qui auront été prises.
D'accord. On va dans le même sens. Bien, d'autres questions, remarques hein. Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Bien, vous pouvez dire deux mots, monsieur Petit, du point numéro 3 que l'on retire de l'ordre du jour.
Bien. Donc, nous devions, suite à la mise en révision du règlement du PLU, il va y avoir une enquête publique. Et par ailleurs, le syndicat des eaux est en train de refaire le schéma directeur de l'assainissement. Sur Bédouin, et se proposer, enfin à l'automne, on était en phase pour faire, il y aura une enquête aussi là-dessus, et de faire l'enquête conjointe Et suite, nous étions ensemble lundi, ce lundi après-midi. Et en fait, eux, ils vont, par rapport au schéma directeur qui n'est pas finalisé, ils doivent aussi interroger les services de la préfecture. La préfecture, le délai entre la saisie et le rendu de la préfecture est de 2 mois avant qu'ils puissent, eux, entamer leur enquête. Donc nous, on a déjà perdu quelques mois grâce à la cour d'appel de Marseille. Donc on a convenu lundi qu'on saisirait chacun, on ferait notre enquête publique, chacun à notre tour, nous plutôt dans le premier trimestre, et eux vraisemblablement dans le deuxième trimestre de l'année 2017. Donc il n'y avait pas lieu de délibérer pour faire une enquête publique commune. Est-ce que ça vous suffit comme explication ?
Très bien. Le point numéro 4.
Vous
êtes à moi.
Un conseil municipal sur deux. Monsieur le maire appelle que l'Assemblée délibérante autorise le déclassement de l'impasse communale située rue des Époux-Tramiers, entièrement murée et comblée à l'usage exclusif de Madame Louise Baille, épouse Reynard, et de Monsieur Olivier Reynard, propriétaire des immeubles voisins. Afin de régulariser la situation, il convient d'autoriser l'aliénation de cette parcelle de 37 mètres carrés et d'autoriser sa cession. Par ailleurs, la parcelle cadastrée section F numéro 456 d'une surface de 15 mètres carrés située le village Place de la Bourgade, propriété de Madame Louise Reynard et Monsieur Olivier Reynard, a été aménagée par la commune en voirie. Vu l'évaluation de France Domaine en date du 26 juillet 2016 qui établit la valeur vénale des parcelles à 6 euros le mètre carré, il a été convenu de procéder à un échange de terrain avec paiement d'une soulte de 130 euros au profit de la commune. La commune céderait la parcelle cadastrée section F 3267 lui appartenant, située rue des Époux-Tramiers, classée en zone urbaine au PLU d'une surface de 37 mètres carrés. Et Madame Louise Reynard et Monsieur Olivier Reynard céderaient à la commune la parcelle cadastrée section F 456 leur appartenant, située place de la Bourgade, classée en zone au PLU d'une surface en zone urbaine au PLU d'une surface de 15 mètres carrés. Vu l'accord de Madame Louise Reynard et de Monsieur Olivier Reynard en date du 7 décembre 2016 pour l'échange des parcelles et des partages des frais, ces derniers devant s'acquitter de la somme de 639,60 € auprès de la commune, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu les crédits inscrits au budget primitif 2016, vu la délibération numéro 2016-090 du Conseil municipal en date du 26 septembre 2016 autorisant le déclassement de la parcelle F 3267 issue du détachement de la passe située rue des Époux-Tramiers, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'échange avec paiement d'une soulte entre les parcelles cadastrées section F numéro 456 appartenant à Madame Reynard et à Monsieur Olivier Reynard et la parcelle F numéro 3267 propriété de la commune de Bédouin et d'autoriser Monsieur le maire ou tout autre adjoint faisant fonction à signer les actes afférents.
Bon, mais vous l'avez compris, c'est le prolongement de la délibération que nous avions prise la dernière fois pour déclasser donc une impasse qui était occupée depuis plus d'un demi-siècle. Donc, voilà. Des négociations ont eu lieu. Monsieur Petit donc, est intervenu. Donc on aboutit à cette proposition que je soumets à votre approbation.
Parce qu'en fait, si n'importe quel particulier annexe une partie communale pendant 50 ans et ensuite on propose un échange, comme ça, c'est un peu un échange forcé, mais pas par la commune, par un tiers.
Tout à fait. Mais le tout étant que l'édite municipalité empêche justement que soit clos ces terrains, puisque ça c'est pas un fait nouveau. Mais effectivement, on se trouve devant le fait accompli. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était déjà le cas lors du mandat précédent où on avait laissé tomber l'affaire.
Du point de vue éthique, je trouve ça.
Ouais,
mais c'est moyen.
Il y a encore deux ou trois cas comme ça.
Mais sur le principe.
Non, mais bien sûr.
Le souci, c'est qu'on n'était pas là ni les uns ni les autres quand
Monsieur
Artillan et Monsieur Reynard s'étaient mis d'accord pour faire cet échange qui restait non officialisé pendant 50 ans. Après.
Je dis pas que c'est votre faute. Hein.
Non, mais je prends pas ça comme. Mais je pense qu'il y a des moments où il faut régulariser les choses et qu'effectivement, en même temps, ça fait aussi 45 ans que devant la caisse d'épargne, la commune utilise une parcelle privée de M. Reynard et de sa mère. Enfin, donc, qu'on a goudronné, qui fait partie du domaine quasi de la chaussée depuis des temps immémoriaux, ceci n'avait pas non plus été régularisé. Maintenant, voilà, on essaye de se coller à la réalité. Voilà, j'ai accepté de faire les médiateurs. Après, moi, le reste, libre à chacun d'interpréter la.
Bien, je le soumets aux voix, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Aux acquisitions foncières, M. Petit.
Je vais encore acheter un terrain, c'est le dernier de cette année. Conformément aux orientations du PNLD, la municipalité poursuit son programme d'acquisition foncière permettant à terme à la commune de réaliser les réalisations et les équipements nécessaires. Ainsi, il est proposé l'acquisition amiable de parcelles situées au lieu du. Les Pélamailles, actuellement classées en zone A du PLU à hauteur de 5 euros le mètre, étant précisé que la commune prendra également à sa charge les frais d'acte afférents à toutes les acquisitions et chargera maître en ours notaire du coin à procéder à la rédaction des actes. Un accord de principe de Mme Françoise Spiteri, propriétaire de la parcelle cadastrée F numéro 1015, surface cadastrale de 850 mètres carrés, a été réceptionnée en mairie en date du 2 novembre 2016 pour un montant de 4 250 euros. Vu le code général des collectivités territoriales, vu l'avis des domaines en date du 27 novembre, portant à 1,40€ la valeur vénale au mètre carré des parcelles cassées en zone agricole du PLU, vu la libération numéro 2016-31 du 24 mars 2016, portant approbation du budget primitif pour la commune de Bédouin, il est demandé au conseiller municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle située sous-mentionnée quartier des Prélamaires au prix de 5 euros le mètre carré, soit 4 250 euros. D'autoriser Monsieur le maire ou tout autre adjoint faisant fonction à signer l'acte de vente, toute pièce afférente à cette acquisition, et de charger maître en ours, notaire à Bédouin, de la rédaction de l'acte.
Très bien. Des questions particulières? Je le soumets aux voix. Des abstentions? Des oppositions?
Eh oui.
5. D'accord.
La punition.
Ouais. Donc, merci pour cette majorité.
Ouais.
Oui. Chacun joue son rôle. Le budget annexe du camping et de la piscine, donc on va décharger M. Petit, c'est Mme Colette Lepère qui va nous en parler. Vous avez un document qui est joint d'ailleurs, dans ma poche de mise.
C'est une opération, c'est une décision modificative, puisqu'on a l'opportunité de faire plus tôt que prévu des travaux de voirie sur la chaussée du camping. Et vous savez que lorsqu'on fait des travaux, il faut que ces travaux soient prévus au budget. Donc sur notre budget, on a des sommes qui sont non utilisées, non affectées. Il est donc important de les affecter à cette opération. Donc on fait une décision modificative pour que l'équilibre soit en recettes et en dépenses. Vu l'article L16-12-11 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération 2016-029 du 23 mars 2016 portant approbation du budget annexe camping-piscine-tennis pour l'exercice 2016, considérant l'opportunité de réaliser des travaux de voirie dans les allées du camping estimées à 11 360 euros hors taxes, et consistant dans la réfection de la chaussée et du réseau d'eau pluviale, considérant la disponibilité de crédits prévus en section d'investissement au chapitre 165 et 21 pour un montant total de 7 900 euros, la présente décision modificative tient compte des réalisations d'ores et déjà effectuées et de celles en cours, considérant que la décision modificative est équilibrée en recettes et en dépenses. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 5, telle qu'annexée à la présente délibération.
Très bien. Voilà. Des questions particulières? Bon, je le soumets aux voix. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Convention de prestation, des services de l'Office du tourisme municipal de Bédouin auprès de l'ACOV, de l'Office du tourisme intercommunal.
Madame Marquette. Oui, alors, comme le précise la loi NOTRe, notre Office du tourisme va devenir intercommunal à compter du 1er janvier, mais les opérations administratives seront difficiles pour être mises toutes en place. Donc, nous sommes amenés à signer une convention de prestation de services avec l'Office de tourisme, puisque l'Office de tourisme prendra véritablement prend ses compétences à partir du 1er janvier, mais véritablement sera en mesure de les appliquer réellement à partir du 1er juillet. Alors, la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a prévu le transfert de plein droit aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2017 d'une compétence obligatoire en matière de promotion du tourisme sur la création d'office de tourisme, article 64-66. L'office de tourisme intercommunal sera opérationnel au 1er janvier 2017 sous la forme d'une société publique locale en cours de constitution. Dans l'intervalle, alors même que la compétence de promotion du tourisme est transférée à l'ACOV au 1er janvier 2017 en application de la loi NOTRe, la commune continue à employer et à disposer des ressources humaines et matérielles affectées à l'office de tourisme communal. C'est pourquoi, de manière transitoire jusqu'à la création de l'OTI, la COV a demandé à la commune de Bédouin d'effectuer une prestation de service d'office de tourisme dans les conditions et selon les modalités détaillées ci-après. Pour Bédouin, un fonctionnaire et un agent contractuel en CDI seront transférés à la COV au moment de la création de l'OTI au 1er juillet 2017, puis mis à disposition de ce dernier. Dans l'attente, pour organiser la période de transition, il est proposé pour les communes assurant la gestion en régie de l'Office de tourisme de signer avec la COV une convention de prestation de services dans laquelle il sera précisé la délégation de la compétence tourisme de la COV à la commune pour une durée de 6 mois, les missions des agents municipaux, accueil, information, promotion, communication et coordination des professionnels, les modalités pratiques d'intervention, les modalités financières. En application de cette convention, les agents demeurent statutairement employés par la commune, les conditions d'exercice de leurs fonctions demeurent inchangées. S'agissant des aspects financiers, la COV compensera les coûts supportés par la commune. Le coût de transfert de charges sera établi précisément par la commission locale d'évaluation et sera déduit de l'attribution de compensation. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable du comité technique réuni le 5 décembre 2016, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe et les termes de cette convention, d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer les actes et pièces afférentes.
Très bien. Donc, c'est effectivement une disposition transitoire qui concerne d'ailleurs au sein de la COV simplement quatre offices de tourisme, c'est Aubignan, Bédouin, Saint-Didier et Sarian, qui ont du personnel communal. Pour les autres, ce sont des associations. Et pour les associations, pendant le même laps de temps, c'est la COV qui va donner la moitié de la subvention que donnait la commune l'année précédente, augmentée des frais d'impression qui doivent toujours être faits en début de saison et qui resteront donc qui seront pris en charge par la COV, mais qui resteront tout de même sous le format, comme pour nous, le format local, c'est-à-dire la charte graphique collective de l'OTI ne sera opérationnel finalement que la saison prochaine, quoi. Mmh. Parce qu'au mois de juillet, au 1er juillet, tout sera prêt, tout sera dans les bacs. On va justement essayer d'ajuster
la production que l'on va faire, puisqu'on sait que l'an prochain, normalement, on part sur certains documents qui seront communs. Voilà, longue opération.
Mais... question par rapport à ça, les associations des autres communes sont obligées oui. aussi de passer sur l'intercommunal ?
Oui. C'est tout ce qui est promotion du tourisme, donc qui est confié aux OTI, qui est confié au département, qui est confié à la région. Par contre, les associations, elles ont le loisir de continuer à exister pour mener des actions qui sont strictement locales. Nous, on a un bel exemple pour ça, la fête de la forêt, par exemple. Ça pourrait faire l'objet, si on avait une association, comme on avait eu donc à l'époque, ils pourront toujours s'occuper de ces manifestations locales. Par exemple, à Venasque, une association pourra s'occuper de la fête de la cerise. C'est une séparation bien précise de...
Et je suppose que par rapport à ça, donc après, derrière, sur les modes de fonctionnement mis en place par l'Interco, on n'a pas d'action, ni rien.
Et si, justement, c'est pour cette raison qu'on parle de la SEPL, la Société Publique Locale. Allez, il y avait plusieurs possibilités. Soit on repartait en faisant une association. Soit le problème de l'association, c'est qu'à un moment donné... compte tenu quand même du fait que c'est quelque chose qui va brasser au bas mot, c'est 22 à 24 personnes, donc ça va brasser au bas mot entre 750 000 et 1 million d'euros en régime de croisière. Sur le fait associatif, alors déjà, ce sont des sommes importantes par rapport à une association, mais là, il n'y a pas de désignation fléchée pour les représentants de la collectivité qui, à un moment donné, sera, au moins au début, obligé de donner de l'argent pour obtenir l'équilibre. Et je m'explique. Les recettes de l'Office du tourisme intercommunal, ce sera la taxe de séjour qui va être prise au 1er janvier, ce sera les versements des communes pour équilibrer le transfert de charges, ce que ça coûtait avant et ce que ça va coûter maintenant. Mais par contre, s'il y a un delta qui se manifeste, c'est la COV qui va combler le trou. Et alors peut-être que dans l'avenir, et on le souhaite, que cette SEPL, l'OTI, donc, fera de la vente de séjour, enfin, fera des organisations qui rapporteront de l'argent, mais on a toujours l'Interco qui est derrière. Ben, c'était d'ailleurs le cas pour les associations dans les communes, quoi. Et quand une association, office de tourisme, allait voir le maire en lui disant, mais voilà, il faudrait que tu me fasses une rallonge de X centaines ou X milliers d'euros, c'est ce qu'on pratiquait. Et donc, le fait de se mettre en SEPL, mais déjà, ça présente l'avantage de pouvoir prendre une comptabilité privée. Prendre une comptabilité privée, ça veut dire que l'on n'a pas, comme on le fait malheureusement actuellement pour le camping du Brégou, par exemple, toutes les années, en début d'année, lors d'une délibération commune, on fait voter 64 personnes, les 64 représentants de la COV, pour fixer le prix du Mico à la crème, le prix de la canette de Perrier, le prix de la canette d'Origina, enfin tout un tas de facéties que vous connaissez, quoi. Donc déjà, on est sur notre système comptable, et d'autre part, les membres du comité directeur sont les maires des communes. Ça aussi, c'est ce qui a été voulu par l'ensemble des maires. Alors, à côté, bien sûr, l'administration se fera avec des groupes de travail, des groupes qui vont être les anciennes des associations ou autres, et j'ai demandé justement à ce qu'on ne prenne pas en compte simplement ce qui existait en tant qu'association, mais dans les quatre communes que je vous ai citées, par exemple, il n'y a pas de raison que nous, on n'y soit pas représenté d'une manière ou d'une autre pour donner notre avis, autrement ce ne serait pas équitable. Mais donc voilà la manière dont ça va fonctionner. Et là, donc, il a été recruté, ça c'est le seul recrutement qui a été fait, un nouveau directeur qui prend ses fonctions à partir du 4 janvier, et donc qui va être chargé de structurer tout ça. La taxe de séjour aussi, vous savez qu'on a tenu des réunions, là tous les loueurs ont été invités,
dont la taxe de séjour dorénavant est unifiée, uniformisée sur tout le territoire. Elle s'appliquera partout et on pourra la gérer informatiquement. Mais ça va être comme vos impôts bientôt. Ce qui, sinon, ça aurait représenté une masse de travail extraordinaire. Donc voilà pour les grands traits.
Tant qu'on n'a pas, c'est pas sur le fait de cette transition, mais tant qu'on n'a pas les statuts de la SPL et le pourquoi de ce choix.
Ah mais pourquoi c'est celui que je t'ai donné.
Je vais l'expliquer un petit peu. Hein,
ah mais non, mais c'est très clair. Les maires se sont réunis en deux séminaires et donc ont décidé, excusez-moi, mais qui paye aux commandes.
Eh oui.
Voilà, excusez-moi d'être un peu brutal.
C'est le service public qui s'en va.
Qu'est-ce qu'il y a de géré au niveau de la FOV sur ce principe-là ?
Rien. Oui. Mais là, en fait, c'est la loi. Bon, il se murmurait, on parlait de l'Office du tourisme depuis un mandat et demi, hein, de l'OTI, et puis là, la loi NOFRE, donc, dit, mais maintenant, la date butoir, c'est au 1er janvier, donc.
Ça, c'est une obligation.
Prenez,
après le choix. Je posais la question de s'il y avait déjà des exemples de fonctionnement comme ça.
Non. Des SEPL, bien sûr, il en existe ailleurs. Mais dans le journal d'avant-hier, vous avez le Grand Avignon aussi qui a fait son office du tourisme. Dans mon pays. Bien. Donc, d'autres questions ? Pardon. La SEPL, c'est assez récent comme statut juridique. 2010 à peu près. Donc je soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Demande de classement en commune touristique, malgré tout.
Malgré tout. Notre commune a la possibilité de devenir une commune touristique. C'est un avantage certain au niveau des dotations. Donc nous avons l'intention de faire la demande. Un dossier a été établi. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme, notamment son article L133-11, vu le décret 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son article 1, considérant que par l'arrêté préfectoral en date du 28 mai 2004, l'Office du tourisme de Bedouin a été classé en deuxième catégorie, considérant que ce service municipal depuis le 1er janvier 2012 ne bénéficie pas d'une autonomie juridique et financière, ne peut donc pas solliciter la reconduction de son classement. Considérant que la commune présente toutes les caractéristiques pour prétendre au classement en commune touristique, au regard de ses capacités d'hébergement non permanent, de la diversité des animations proposées, tant sur le plan sportif que culturel et patrimonial, considérant l'intérêt pour la commune de Bedouin de pouvoir bénéficier de cette reconnaissance, considérant la création de l'Office de tourisme intercommunal au 1er janvier 2017, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à solliciter le classement en commune touristique et à signer toutes pièces afférentes.
Très bien. Donc, on va déposer ce dossier, mais qui ne correspondra plus à la réalité. On parlait tout à l'heure du nombre de personnes qui résident sur la commune. Il est évident qu'on a des charges et des contraintes à cause de l'accroissement d'été qui dépasse largement les 3300 habitants. Donc, si on pouvait par ailleurs avoir une compensation, cela ne serait qu'une logique. Bien, je le mets au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le transfert du droit au bail au Cocalis. Béatrice Roux.
Par courrier du 3 novembre 2016, maître Caroline Lacaze Mars, notaire à Pernes, sollicite l'autorisation de la commune en vue de la cession par madame Magali Brun au profit de monsieur et madame Bello du chalet dont elle est propriétaire situé au Cocalis, cadastré section AB numéro 1. Pour une contenance de 34 centiares. À cette cession vient s'ajouter le transfert du droit au bail qui a commencé à courir le 1er octobre 1966 et qui se terminera le 30 septembre 2038. Vu le règlement du lotissement, vu le contrat de bail, Il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable au projet de vente du chalet installé sur le terrain communal du Cocadis, d'autoriser le notaire en charge du dossier à poursuivre cette vente pour le droit au bail restant à courir, et de donner pouvoir à monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction pour signer tous les actes à cet effet. Donc ça, c'est une demande classique d'autorisation de transfert du droit au bail du terrain communal sur lequel est édifié ce chalet.
Et ce chalet, c'est le premier, donc à droite, le plus proche du chalet Rénard, finalement, qui était un chalet qui appartenait à une époque à Manet. Bon, je le mets au voix. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Nathalie Rénard, pour la création du chemin des bergers.
Monsieur le maire rappelle que par délibération numéro 2016-131 du 9 novembre 2016, le conseil municipal a approuvé le principe de répondre à l'appel à projet européen FEADER et particulièrement l'opération 7.6.5 pour la conservation, les actions culturelles et la mise en valeur du patrimoine rural à petite échelle, dont le financement permettrait la création d'un sentier de randonnée de type circuit de découverte des bergeries du Ventoux et la restauration de certains des jaces. Ainsi, il pourrait être envisagé dans ce cadre la rénovation, la sauvegarde et la mise en valeur d'éléments remarquables du patrimoine rural et pastoral et des lieux d'exception du Ventoux. Les actions proposées sont les suivantes. Inventaire complémentaire du patrimoine communal sur le secteur d'études concerné, en particulier les cabanes de bûcherons, les glacières et les sites de charbonnage qui sont encore peu recensés dans les inventaires déjà engagés. Remise en état par les équipes communales des abords des sites des Hauts Compagnons, de la cabane Jacob et de la Croix par débroussaillage et nettoyage. Sauvegarde et mise en valeur de deux sites emblématiques, l'amphithéâtre des chantiers de jeunesse dans la commune de Fiolle et la cabane de la Conche. Consolidation du bâti, mise hors d'eau du bâtiment avec confortement de la toiture, mise en valeur des abords et accessibilité et réfection de la couverture de la cité. En ce qui concerne l'action de mise en valeur des circuits, il s'agira de la réalisation de trois panneaux d'interprétation autour de thèmes emblématiques, comme le pastoralisme, l'eau et le Kars à la fonte d'Anjou et la résistance à l'occupation nazie à l'amphithéâtre de la Confiole. Reprise et réédition du guide des circuits communaux en intégrant les boucles mises en valeur dans le projet. Et ensuite, action d'animation culturelle. Organisation de sorties de deux journées auprès des élèves de Bédouin à la redécouverte du patrimoine pastoral et forestier du massif. Journée grand public de redécouverte du patrimoine avec notamment l'organisation d'une représentation théâtrale sur le site restauré de l'amphithéâtre des résistants. Cette opération pouvant répondre aux critères d'éligibilité au titre du Fonds départemental d'intervention pour l'environnement et bénéficier d'une subvention de 12 000 euros, il est proposé de modifier le plan de financement comme suit. Au niveau des dépenses, les travaux d'aménagement et de restauration sont d'un montant donc de 37 000 euros hors taxes, les études et ingénierie 26 000 euros hors taxes et les frais salariaux 3 912 euros hors taxes pour un total de 66 912 euros. En ce qui concerne les recettes, donc FEADER, 35 463 euros hors taxes. Le conseil départemental de Vaucluse, donc, avec ses 12 000 euros hors taxes. Et la commune de Bédouin, 19 449 euros hors taxes, pour un total de 70 900 euros. Il est demandé au conseil municipal d'accepter le plan de financement modifié, d'autoriser M. le maire à solliciter des financements et à présenter une demande de subvention auprès du conseil départemental de Vaucluse, et de donner pouvoir à monsieur le maire ou à tout adjoint faisant fonction pour signer toute pièce subséquente.
Très bien. Ouais, donc, continue la démarche de remise en état de notre patrimoine en déposant des dossiers à de multiples endroits où on est censé pouvoir trouver de l'aide. Je me vois. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions. Je vous remercie. Je vous... Pardon. Ouais.
Simplement, on va signaler le chemin qui sort avant les 7 virages, celui qui sort sur la gauche. Mmh. La sortie est très, très dangereuse.
Il y a la barrière, ouais. En bas. Ouais.
Mmh. Autrefois, il a failli faire passer deux vélos dessus au capot. parce que quand on sort, les vélos, je veux dire, c'est hyper dangereux, le jour de l'accident.
Et qu'est-ce que...
Elle sort en biais, et puis le virage, il est 10 mètres. Il faudrait pouvoir sortir plus
bas.
Je signale, parce que ça m'est arrivé, parce qu'un jour, ça arrivera.
Mais les vélos sortent.
Ça sort de plein matin, et quand on sort, il n'y a rien, il y a 10 mètres.
Il faudrait peut-être faire sortir le chemin
un peu plus bas.
Un peu plus bas.
Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'autres.
Oui, hein. deux coups de côté.
Mais c'est dangereux.
Même une voiture qui
dépasse. Et s'il y a Nicky qui passe.
Je ne sais pas en rendez,
mais... Oui. Oui. Alors, sachez, on avait déposé dernièrement une demande sur des mesures. C'était quoi ça? Des mesures de réhabilitation patrimoniale pour lutter contre l'érosion derrière le chalet Rénard, puisque vous savez que l'eau a souvent tendance à entrer par la fenêtre arrière et sortir par la porte de devant, ce qui n'est jamais agréable pour les propriétaires du chalet. Et donc il y avait une ligne budgétaire qui semblait assez peu utilisée. Et on avait déposé un dossier là-dessus, donc pour des réaménagements de travaux avec des pièges à matériaux et autres. L'ONF a été notre conseiller technique là-dessus, ils ont l'habitude d'en faire par ailleurs. Et on nous a annoncé, lundi quand nous étions à la commission de la chasse, la DDT nous a annoncé qu'on avait été retenu. Donc en principe, ce serait des fonds, ce serait entièrement pris en charge. Bon, au moins la TVA peut-être, puisque on peut quand même pas nous faire un cadeau de tout si on la récupère derrière. Mais ça permettra justement de faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Pour le moment, on avait trouvé une espèce de système là, mais bon, là, a priori, on part pour de beaux travaux de lutte contre l'érosion. On avait voté ça, oui, voté. Non, non, jamais le précédent. Bon, pas voté. Bon, ouais. Bon, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La mise à disposition de la benne à ordures ménagère avec chauffeur pour l'enlèvement des déchets issus du marché forain avec la cove. C'est moins poétique, mais Dominique Rouillère, il faut y passer.
L'article R5211-4-3 du Code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de coopération intercommunale de se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon les modalités prévues par un règlement de mise à disposition. La COV est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et dispose de bennes à ordures ménagères pour l'exercice de cette compétence. La collecte des déchets résultant d'activités spéciales, telles que les foires et les marchés forains, organisés par les communes, n'entre pas dans la catégorie des déchets ménagers et assimilés incombant à la commune. En conséquence, il appartient à la commune organisatrice de procéder à leur enlèvement. La commune de Bédouin, ne disposant pas de véhicule adapté pour l'enlèvement des déchets issus du marché forain, sollicite la COV pour la mise à disposition d'une benne à ordures ménagères avec chauffeur selon un calendrier déterminé en fonction des besoins de la commune, à savoir 27 semaines, donc grosso modo d'avril à septembre, pour un montant de 6 177 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune et considérant l'intérêt pour la municipalité d'avoir recours au service de la COV, il est demandé au conseil municipal d'accepter les termes de la convention, d'autoriser Monsieur le maire et tout adjoint pris en fonction à signer toute pièce afférente à cette délibération.
Très bien, mais oui, mais ça c'est la contrepartie de notre marché du lundi, voilà, aux multiples forêts. Et oui, c'est justement un des arguments qu'on utilise toutes les années en justifiant d'une augmentation, parce qu'on leur dit qu'on a de l'électricité à payer, qu'on a de la voirie à faire, et voilà, on a de la police municipale, et puis voilà. Donc, bien, c'est nécessaire. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Modification des représentants de la commune au sein de l'EPAGE du sud-ouest du Mont-Ventoux. Par délibération du 9 avril 2014, du 10 novembre 2015, le conseil municipal a procédé à la désignation parmi ses membres de deux représentants délégués titulaires et de deux délégués suppléants auprès de l'EPAGE sud-ouest du Momentou comme suit. Délégués titulaires, donc Nathalie Reynard et Emmanuel Valérian, délégués suppléants, Luc Reynard et Jean-Louis Ribas. Madame Valérian et Monsieur Ribas ont demandé à ne plus siéger au sein de cet organisme pour des raisons professionnelles, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il convient de procéder à l'élection des délégués au scrutin secret à la majorité absolue, à la majorité relative en cas d'un troisième tour. Vu la candidature de Mme Chantal Blanc aux fonctions de délégué titulaire et de M. Dominique Rouillère aux fonctions de suppléant, je vous propose de procéder à la désignation d'un nouveau délégué titulaire et d'un nouveau délégué suppléant auprès de l'EPAGE. Mais... Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidatures déjà? Et deuxième point, est-ce que si on procède, est-ce que quelqu'un réclame le vote à scrutin secret? Bien, il faudra gagner un peu de temps. Bien, donc je vous propose d'approuver ces désignations. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Béatrice Auroux, approbation de l'avenant numéro 1 au contrat enfance jeunesse pour le volet jeunesse 2015-2018. Avec la CAF et la MSA.
Alors, par délibération numéro 2015-101 du 10 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la convention d'objectifs et de cofinancement enfance jeunesse avec la CAF de Vaucluse et par délibération 2016-135 du 9 novembre 2016 pour la MSA. Il est proposé la signature d'un avenant portant à 0,75 équivalent temps plein le poste de coordonnateur à compter du 1er juin 2016. Faisant suite à la réorganisation du pôle enfance, jeunesse, éducation. Vu le code de l'action sociale et des familles, vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu le projet d'avenant, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat enfance, jeunesse, volet jeunesse signé entre la commune de Bédouin, la caisse d'allocation familiale de Vaucluse et la mutualité sociale agricole Alpes-Provence, d'autoriser sa signature par monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction, et de dire que les autres dispositions sont inchangées. Donc le contrat enfance jeunesse, il est signé pour 3 ans. Il a été signé pour 3 ans, mais il faut savoir qu'en cours de vie, on peut les aides que nous recevons de la CAF et de la MSA sont susceptibles de variations, notamment si la commune apporte des améliorations du service. Ce qui a été fait, puisque nous avons embauché un coordinateur qui consacre 75% de son temps, alors qu'auparavant, son prédécesseur consacrait 50% de son temps au pôle enfance jeunesse. Donc, ce qui nous permet eh bien, tout simplement de toucher un petit peu plus d'aide de la CAF.
Très bien. Écoutez, dans ce sens, ça va bien. Donc, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Oui, parce que bien entendu, quand les prestations diminuent, on ne vous demande pas de faire passer un conseil municipal. Hein. On vous l'impose. Alors, l'attribution de bons pour le loto des écoles.
Alors, comme chaque année, la commune de Bédouin est sollicitée pour participer au loto des écoles et notamment pour l'attribution de bons cadeaux utilisables dans les commerces de la commune se souhaitant associer à cette opération. Il est proposé de renouveler la participation communale en allouant pour chaque une des deux écoles deux bons cadeaux d'une valeur unitaire de 50 € toute taxe au profit des lotos des écoles. Ces bons dont le montant total s'élève à 200 € toute taxe feront l'objet d'un mandat sur le budget principal de la commune. À l'article 62-32 du budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'allouer à l'école maternelle et à l'école élémentaire de Bédouin deux bons cadeaux d'une valeur unitaire de 50 € afin de contribuer à l'organisation de l'école.
Très bien. C'est une dotation habituelle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Pardon. La somme est assez faible.
Elle
a augmenté il y a 2 ans. Quand même. C'est la deuxième année que...
3 ans.
C'est vrai qu'on pourrait faire un effort supplémentaire.
Oui, comme vous pouvez.
C'est à prévoir au budget.
Pour l'année prochaine.
On y sera.
Pour l'année prochaine. Allez, promis, vous me le rappellerez.
L'opposition qui le propose.
C'est bien.
C'est voté 200 euros, nous on demande de plus. Donc, voilà. Si c'est plus l'année prochaine, ça serait...
C'est pas démagogue l'opposition, mais c'est bien de proposer.
C'est bien de préciser.
Et je vous promets de vous écouter la prochaine, sur ce point. Et de vous entendre, surtout. Bien, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Bibliothèque municipale, modification des tarifs. Donc, Michel Massendès.
Alors, l'objectif majeur d'aujourd'hui pour les bibliothèques municipales au sein de la COV, c'est l'harmonisation des conditions d'inscription. En effet, ce dispositif permettrait à tous les établissements de répondre aux enjeux des nouvelles pratiques des habitants en termes d'usage et de pratiques culturelles. Il permettrait d'accroître le niveau de service rendu aux habitants. L'enjeu d'un tarif unique autoriserait tous les acteurs du territoire à, d'une part, augmenter de manière significative leur choix d'emprunt d'ouvrage ou autre, et d'autre part, à s'en voir faciliter les conditions d'accès par le prêt de documents dans tous les établissements du réseau, quel que soit leur lieu d'habitation, de circulation des documents entre les différents établissements sur l'ensemble du territoire, le développement de ressources numériques communes accessibles à tous, le groupe de travail lecture publique, regroupant des élus concernés réunis le 3 octobre, a choisi à l'unanimité des présents le scénario suivant. Gratuité pour les moins de 25 ans du territoire, étudiants et apprentis. Gratuité pour les personnes allocataires des minima sociaux. 10 euros, tarif famille, résidant sur la COV, ainsi que les résidents secondaires, taxes foncières ou d'habitation, pesant fois. La notion de famille concernant les personnes vivant sous le même toit. 15 euros, tarif famille, résident hors COV. 10 euros, tarif touriste de passage. Les communes qui souhaitent continuer à offrir la gratuité le pourront uniquement pour leurs habitants sur la présentation d'un justificatif de domicile. Ainsi, sur la commune de Bédouin, ancien tarif gratuit pour les habitants de la commune sur présentation d'un justificatif de domicile, nouvelle tarification, la même, gratuité pour les habitants avec un justificatif de domicile. Gratuité pour les moins de 25 ans du territoire étudiant et apprenti. Gratuité pour les personnes allocataires des minima sociaux. 10 euros tarif famille résident sur la COV, ainsi que les résidents secondaires, taxes foncières d'habitation. La notion de famille concernant, bien sûr, les personnes vivant sous le même toit. 15 euros tarif famille résident hors COV. Alors, précédemment, nous faisions payer un chèque de caution pour les usagers saisonniers, touristes. Maintenant, ça sera 10 euros. Tarif touriste de passage. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification des tarifs tels que proposés ci-dessus à compter du 1er janvier 2017, d'autoriser M. le maire ou la conseillère municipale déléguée à prendre toute mesure permettant l'application de la présente délibération.
Très bien. Donc voilà.
À savoir que les navettes seront bien sûr faites par la COV.
Donc c'est un prix supplémentaire.
Ah non, pas du tout. Si tu veux, les navettes seront pour les communes gratuites, c'est la COV qui s'en occupe.
Oui, mais ça veut dire que c'est du travail supplémentaire pour la COV.
Ah oui. Voilà.
Alors moi, l'objectif majeur aujourd'hui, il est soi-disant l'harmonisation des conditions d'inscription. Est-ce qu'à terme, demain, ça ne va pas être de donner la compétence des bibliothèques municipale à l'interco?
Alors ça, c'est une bonne question.
Ça fait penser
pour l'instant.
Oui, déjà, c'est quelque chose à ce jour qui est géré communalement. En fait, c'est quoi? C'est une suggestion de la part de la COV de...
Oui.
Ouais.
Sauf qu'ils nous ont laissé quand même le choix à chaque commune, puisqu'on a un peu quand même compliqué, d'avoir quand même toujours la liberté ou non, de faire payer ou pas à ses résidents, voilà, gratuit ou pas.
Mais le reste... Laisser la liberté, ça me choque un peu, quoi.
On est déjà dans ce...
Oui, on ne paye, les habitants de Bédouin ne payent pas. Non, on est bien d'accord.
Mais quand tu dis laisser la liberté, quelque chose qui est communal, c'est quand même nous qu'on gère, qu'on décide. C'est pas eux qui nous laissent la liberté.
Il faut voir
quoi.
À plus long terme. Je sais que
c'est ça qui me choque.
Oui, mais ça, la question n'a pas été posée. Si mais ça allait devenir
en c'est communal, on applique quand nous arrive.
D'accord. Mais pour l'instant, ce n'est pas le propos. Non, le propos pour l'instant, c'est d'avoir une carte commune pour faciliter l'échange entre bibliothèques, d'avoir plus la liberté pour les lecteurs d'avoir de nombreux livres. C'est-à-dire qu'ils vont en avoir 5 000 à disposition, ils pourront en avoir 10, 15 000, voilà. Ça, c'est l'objectif actuel. Après, si on devient cov ou pas, comme loté, ouais, ce n'est pas encore la question, ce n'est pas le propos actuel.
Non, mais je n'ai pas dit que c'était la question. Voilà. Je dis simplement que quand on nous dit qu'on
nous peut y penser, effectivement.
Quand on nous laisse la liberté, c'est ça qui me dérange, quoi. C'est après, quand on veuille mutualiser des livres, pourquoi pas, effectivement, pour grossir la capacité de l'enveloppe.
Qu'est-ce qui te gêne, en fait? C'est que la commune ait la liberté de laisser le choix à chaque commune de payer ou pas, de faire payer ou pas ses habitants.
Qu'on nous impose les tarifications à appliquer. Voilà.
Alors, les tarifications, oui, simplement, nous, où on est obligé de la payer, c'est sur les touristes.
Mais après, pourquoi nous imposer les tarifications?
Et les touristes, eux, vont payer 10 euros alors qu'ils donnaient qu'un chèque de caution. C'est la seule différence que nous avons pour nous.
Moi, c'est plus sur le principe de nous imposer les tarifications. Voilà.
C'est ainsi. Hein,
alors, ouais, déjà, le fait, cette mutualisation, elle existe déjà.
Voilà.
En fait, on formalise quelque chose qui existait déjà de fait. Ces échanges qui se font entre bibliothèques, ça fonctionne depuis une décennie. Et donc, on invente, non pas une décennie, mais au moins depuis 4 ou 5 ans, hein, je pense que c'était
que ça s'est élargi.
C'était bien avant ce mandat. Oui,
Moi, je trouve une forme d'ingérence d'imposer les tarifications.
Mais la tarification, elle est toujours la même dans la mesure où on a toujours payé 10 euros.
Oui, non, mais c'est pas grave. Non, mais d'une autre manière, on se trouvait dans une situation qui était quand même assez paradoxale où sur un même territoire, quelqu'un d'une commune voisine qui appartenait à la même intercommunalité, alors déjà devait payer à toutes. À deux bibliothèques, quelqu'un à Saint-Pierre par exemple, où il y a une bibliothèque et à Bédouin, chacun devait payer à toutes et on se trouvait aussi avec des tarifs qui étaient différents. Donc on est bien dans une harmonisation. Mais pour le moment, il n'est pas question. Et entre nous, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup la COV d'aller sur ce champ-là. On est bien d'accord.
C'est simplement le fait qu'ils utilisent la tarification dorénavant, c'est ça. Voilà, c'est tout ça qui me dérange. C'est pas le fait qu'il y ait des charges de livres pour ça. Vous venez nous dire, dorénavant, les tarifications et chiffres, parce que c'est communal, ça sera ça. C'est plus un principe.
Oui, mais c'est pour mettre l'accès à la lecture au même prix pour tous sur le même territoire.
Parce qu'il y a des endroits, effectivement, là c'est pour tous 10 euros, 15 euros, ça reste raisonnable, mais on avait des communes où c'était la tarification, les cartes étaient à 20 euros. Quoi.
Ouais,
hein, voilà, donc c'était vraiment très. Là ça a été surtout pour harmoniser, si tu veux, le. Voilà. Après nous on est resté comme on l'était depuis des années gratuit, pour nos résidents, bien sûr. Hein, hors résidents payeront 10 euros.
Oui, non, mais c'est pas sur le. Tarif en soi-même, c'est pas sur le coût.
Je comprends ta réflexion.
Voilà. Ouais. Je le mets au voix. Bon, alors, y a-t-il des oppositions? Une. Des abstentions? Une. Je vous remercie. Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi public. Donc, vous savez que régulièrement, l'État met en place des processus de titularisation des personnes donc, qui travaillent dans les différentes fonctions publiques, que ce soit celle d'État, la territoriale ou l'hospitalière, et donc on est toujours dans cette démarche. Donc, il y a eu en 2016 une loi relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, qui a prolongé de 2 ans la durée d'application du dispositif de titularisation qui avait été prévu dans l'article 13 de la loi de 2012 relatif à l'emploi titulaire.
Donc le décret 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale précise les conditions de mise en œuvre de ce dispositif pour les deux années de prolongation, soit du 13 mars 2016 au 13 août 2018. Donc nous avons l'obligation, nous les collectivités, de recenser les agents susceptibles d'accéder à un emploi titulaire et de présenter au comité technique. Alors, un bilan du plan de résorption de l'emploi précaire pour la période 2012-2016. Vous vous souvenez que de 2012 à 2016, nous avions eu quatre personnels qui avaient pu bénéficier de cette mesure. Il s'agissait du directeur général des services, d'une des responsables enfance jeunesse, de notre directrice administrative actuelle. Et par contre, donc, un agent technique de deuxième classe avait vu son contrat être transformé en contrat à durée indéterminée, puisque c'était un CDD, mais n'avait pas pu, pour des raisons personnelles, donc être intégré dans la même fonction publique. Donc, nous a demandé aussi un rapport sur la situation des agents non titulaires remplissant les conditions requises pour prétendre au même dispositif de titularisation. Et nous avons donc deux agents, l'un qui est rédacteur principal qui occupe les fonctions de chargé de développement et de promotion touristique, qui a une ancienneté de 4 ans et 11 mois, et un autre agent, rédacteur, qui occupe les fonctions de chargé de développement et de promotion touristique, présentant une ancienneté de 4 ans, 2 mois et 17 jours. Le nombre d'agents éligibles donc est de 2. On devait présenter aussi un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, déterminant en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Donc, en matière de recrutement direct, d'emploi réservé par concours, sans concours pour les grades d'adjoint, donc néant pour nous, ce qui nous concerne. En matière de sélection professionnelle, donc nous avons un emploi. Et prévision de transformation de CDD en CDI, agent ayant acquis 6 ans de service auprès de la collectivité, donc on n'en a plus. Donc nous avons réuni bien entendu le comité technique comme il se doit, où nous avons exposé ce recensement. Donc vu le budget communal, vu le tableau théorique des effectifs, considérant les besoins de la collectivité, je vous demande d'approuver ce programme pluriannuel d'accès à la fonction publique 2016-2018. Sachant que sur les deux agents, notamment qui étaient chargés de promotion touristique, l'un d'entre eux va nous quitter, on en a parlé tout à l'heure, pour être donc reversé à la COV, qui mettra ensuite les agents de la fonction publique territoriale à disposition de la SPL, de l'OTI, pardon. Mais voilà, c'est une régularisation. De temps en temps, l'État se rend compte qu'il y a des personnes dans des situations qui sont encore plus précaires que ce qu'elles pourraient l'être dans des entreprises privées. Vous savez que suite à deux successions de contrats à durée déterminée, on embraye automatiquement sur un CDI, hein, s'il n'y a pas eu interruption. Et je vous la fais rapide, mais c'est ça. Alors que chez nous, oui, on en voit malheureusement des exemples tous les jours dans les journaux, je pense en particulier à La Poste, où on a des personnes qui, pendant des années, pendant toute leur carrière, alignent des petits contrats et qui se trouvent de ce fait bien privées d'une possibilité d'évolution, puisque concluant des contrats très courts, elles sont toujours reprises sur un minimum, pas d'ancienneté et tout un tas d'avantages qu'elles ne peuvent percevoir. Voilà, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Jean-Marc Petit, s'il vous plaît, vous terminez avec le RIF 7. Alors, peut-être on peut faire un résumé.
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, dit RIF 7. Je vous fais grâce de tous les décrets. Nous avons eu l'avis technique du comité technique le 9 novembre 2016. Monsieur le maire propose à l'Assemblée délibérante de créer le RIFSEP et d'en déterminer les critères d'attribution. Le RIFSEP comprend deux parts. L'indemnité de fonction, de sujection et d'expertise liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle, l'IFCE, et le complément indemnitaire versé selon l'engagement professionnel en matière de services de l'agent CIA, ne pas confondre avec l'organisme américain. Vous avez tous les bénéficiaires. C'est pas un organe. Vous avez tous les bénéficiaires, donc à l'exclusion de la police municipale. Donc tous les agents de la commune seront concernés, sauf les policiers municipaux. Vous avez l'indemnité de fonction, donc de sujection et d'expertise. Donc vous avez derrière les critères. Hein, il y a trois critères : fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage, de conception, technicité, expertise, expérience et qualification nécessaires à l'exercice des fonctions, et suggestion particulière, avec toute une panoplie d'indicateurs dont je vous fais grâce. Vous avez ensuite la commune de Bédouin, qui a réparti les postes par groupe en fonction, en se référant à son organigramme, sans distinction des grades de la filière des agents. Il y a quatre groupes dans la fonction dans la catégorie A, trois groupes de fonctions pour la catégorie B, trois groupes de fonctions pour la catégorie C. Donc vous avez en même temps la déclinaison, hein, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, et ainsi de suite, avec toutes les fonctions, les emplois. Et donc on nous demande de voter un plafond de cette indemnité. Alors cette indemnité-là, hein, donc l'IFCE va être lissé sur l'année et sera payé mensuellement, hein, à partir du 1er janvier. Donc vous avez effectivement après derrière toute la prise en compte de l'expérience professionnelle, tout ce qui est prévu à cette IFCE. Et donc a été décidé, hein, dans l'article 2.5, le cas de suppression de ce régime indemnitaire, hein, de suggestion d'expertise, donc est maintenu dans son intégralité pendant les congés d'accident, de service, de travail, d'hospitalisation, les congés maternité, adoption et congés paternité et accueil d'enfants, et réduit au 1/30 par jour d'absence pour ce qui est les périodes de congés de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée et grave maladie. Donc voilà. Donc l'indemnité est simplement retirée au 1/30 pour ces cas-là. Ensuite, il y a le complément indemnitaire qui est le CIA sur la façon, l'engagement professionnel et la manière de servir, qui sera versé en une seule fois en fin d'année civile et qui ne pourra pas excéder 10% de la valeur de l'autre partie de l'IFCE cumulée. Voilà. Donc voilà les dispositions. On va aller au bout. Tout ça sera donc mis en place à partir du 1er janvier. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de la mise en œuvre du RICEP dans les collectivités et de dire que les attributions individuelles relèvent de la seule autorité territoriale, c'est-à-dire c'est le maire qui décide. Voilà. Donc c'est un grand pensum pour dire que la prime qui était versée avant en novembre est donc divisée et lissée pour 90% et lissée en 12 fois, et il pourra y avoir un petit complément de 10% au mois de décembre de chaque année civile. Donc le comité technique a approuvé et nous présenterons le RIFSEP le mercredi 3 ou 4 janvier, pardon, 4 janvier à 17h à l'ensemble des personnels de la commune pour dire comment, à partir du mois de janvier, qu'est-ce qu'il va y avoir comme modification sur leur paye pour les années à venir.
Voilà. Et ça, Jean-Marc, c'est hors évaluation des agents, hein, l'évaluation qui a lieu chaque année. C'est complètement en dehors, ça.
Enfin, la dernière, le IFCE, c'est sur lissé sur l'année. Après, la dernière partie peut être sur liée, donc les fameux 10%. Si on prend, dans le cas de figure, on prend 1 300 € à l'année, parce que ça fait simple. Hein. Chaque mois, ils auront l'IFCE de 100 €. On arrivera à 1 200. Et 10% de 1 200, ça fait à peu près 100-120 €. Et à partir de là, sur la manière de servir, on pourra dire, oui, vous avez bien servi, on vous donne 120 €. Non, vous avez servi à moitié, on vous en donne 60. Non, on n'est pas content, on vous donne 0.
Voilà. Il n'y a que cette partie-là qui sera, tout le reste sera lissé selon les critères. Donc Madame Souvé a fait un travail particulièrement fourni hein, pour nous présenter ça au comité technique paritaire, pour prendre en considération tout l'éventail de tous les personnels et de toutes leurs fonctions, hein, leurs responsabilités, leurs astreintes, de tous les personnels qui sont employés par la commune.
Les procédures d'évaluation sont devenues, elles sont même renforcées.
Je demandais par rapport à l'évaluation.
Elles sont pas supprimées, elles sont maintenues, elles sont même renforcées. Ce régime indemnitaire.
Renforcées, non. Non, puisque.
Parce que les critères sont précisés.
Oui. Mais bien, l'ensemble des critères, Victor Hugo aurait dit, c'est l'obscure clarté qui tombe des étoiles. Hein, parce qu'il faut s'en pénétrer de cette affaire. Hein. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Au contraire, Patrick, je pense que l'appréciation prend moins d'importance là que ce qu'elle l'avait avant. Ça impacte que sur 10% de.
10% en plus au 13e mois. Une 13e prime à l'appréciation du
gestion, elle est révisable. Hein, tu as les critères qui sont notés là. Elle est révisable en fonction d'un certain nombre de choses. Le changement de grade de l'agent,
oui,
mais aussi
sur
après. Les affectations sur des postes, ouais.
Avant, c'était uniquement à l'appréciation du chef de service.
On se servait beaucoup des appréciations des chefs de service. Mais après, chaque commune avait un peu un mode particulier. Bon, à une époque ici, par exemple. Ce qui se passait, à une époque, il y avait une dinde à chacun pour Noël, comme ça. Voilà, ça c'était très clair. Ensuite, nous, on avait voulu instaurer, sous la municipalité précédente, une prime qui représentait, donc, à son taux maximum, 80% du.
Du salaire,
mois calculé sur une moyenne de 12. Et ensuite, effectivement, ça pouvait être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent.
De l'absentéisme. Ce qu'on a gardé dans la disposition par rapport à ce 1/30e.
Cette évaluation se fait une période et après, c'est payé l'année d'après ou on garde. Tu dis c'est ventilé sur 10 mois.
Non, après, selon les critères qui ont été donnés, par exemple. On a dans la municipalité quelqu'un de catégorie C qui est en même temps chef de service. Ça veut dire qu'il a droit à une prime d'encadrement, de suggestion, de voilà.
C'est un fixe. Hein.
Donc voilà. Donc oui, après, cette prime, tous les mois, il aura,
D'accord. Donc on diminue quelque part la part variable qui était liée à l'évaluation.
C'est plus que 10%.
On lisse tout ça sur un fait, on forfaitise quelque part.
Tout à fait.
Donc on réduit d'autant nos marges de manœuvre par rapport à l'évaluation.
On a un 13e.
C'est bien ce que c'est bien ce que
j'ai dit. Oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit.
Ouais. Par ailleurs, ça existe depuis les années 80. Hein. Je suis étonné que nous, on n'applique ça que maintenant.
Voilà. Ouais. On est zone de montagne, nous.
Ils ont quand même pas fait tout ça que pour nous. Hein. Oui, ça doit être applicable. Mais
c'est vrai qu'ils se parlaient d'un versement, effectivement, d'un versement mensuel. Bon, jusqu'à maintenant, les contrôles de légalité n'avaient pas manifesté un intérêt forcé pour ce genre d'opération. Je vous propose donc de l'adopter tout de même, parce qu'on ne l'a pas fait.
Non,
merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs. Mon contrat emploi d'avenir. Je vous rappelle le dispositif des emplois d'avenir donc créé par la loi du 26 octobre 2012 qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par un contrat aidé. C'est un engagement à former un jeune en interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi lui faire acquérir une qualification. Ceci sous le contrôle d'un tuteur identifié qui doit être désigné au sein du personnel pour l'accompagner. L'aide à l'insertion professionnelle versée par l'État est fixée à 75% du taux horaire brut du SMIC, avec possibilité de majoration de 10% par le conseil départemental de Vaucluse. Et c'est une aide qui s'accompagne d'exonération de charges patronales de sécurité sociale. La durée du contrat est de 3 ans maximum. Je vous propose donc, vu ces décrets, vu l'arrêté qui fixe le montant de l'État, vu le budget de la commune, vu la délibération du 30 octobre 2014, considérant les besoins de la collectivité et la démission d'un animateur en contrat aidé à partir du 31 décembre 2016, d'accepter la création d'un emploi d'avenir, donc pour un animateur, à temps complet pour une durée de 3 ans, et bien sûr pour le pôle EJE. Des questions ? Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, l'ordre du jour est terminé. Y a-t-il des questions particulières ? Bien, alors, si ce n'est pas le cas...
Lors de la cérémonie des vœux...
L'accueil des nouveaux résidents.
Tu as annoncé qu'il y aurait la fête de la forêt.
Oui.
En tant qu'élu, on aurait préféré être averti avant que ce soit un projet. Ça n'a été jamais parlé. Juste une petite réflexion.
D'accord. Oui. C'est vrai.
Ça n'a été jamais parlé ici, c'est le conseil municipal.
Non. On n'en a jamais parlé effectivement au sein du conseil municipal, mais je pensais que comme on l'avait instauré comme les Jeux Olympiques, vous aviez en tête que ça pouvait se dérouler cette année. Donc là-dessus, on a tenu donc une première réunion de contact avec Jeanne Clavière, donc, qui interviendra cette année aussi pour l'animation et la mise à la structuration de cette fête, avec bien sûr de nombreux services municipaux et autres. Donc on commence à y travailler. On sera sensiblement dans les formats précédents. De toute façon, on peut guère faire autrement. Mais si vous êtes intéressé, sachez que vous pouvez vous joindre à nous. Pour le moment, on n'a pas contacté grand monde. Ça fait partie des tâches à venir, notamment au sein des associations béninaises, puisque c'est important. Et de tous ceux qui ont participé la fois précédente. Bon, mais écoutez, on vous en tiendra informé. Très bien. Alors, je voudrais vous rappeler, donc, bien sûr, demain soir, le Père Noël arrive par les airs sur la place de Bédouin. Eh oui. Voilà. Oui. À quelle heure ? Alors, tu nous reprécises les heures, s'il te plaît. Ah oui. Okay.
Et à partir de 16h déjà, il y a la vente des tickets des parents d'élèves, donc dès la sortie de l'école, ça va commencer, voilà. Donc après, à 18h, la déambulation au Lampion, avec l'animation musicale. Après, donc, le show des All-Stars, le Père Noël dans les airs. Après, il nous propose choucroute. Il y aura aussi des coquillages, de la charcuterie, des assiettes apéritives. Par de forains seront là. Donc voilà, la soirée va durer. Et puis samedi, à partir de 10h, ouverture du marché de Noël. Hein, donc avec restauration, atelier enfants, la Ligo des commerçants, l'inauguration du marché à midi avec un apéritif offert par la commune, collecte de jouets pour les enfants défavorisés, goûter pour les enfants. Voilà, jusqu'à 18h.
Avec un spectacle, ne pas oublier.
Un spectacle en plus, avec une scène du dernier magicien. Et le dimanche, le concert de Noël Provençaux, sous la direction de Thibaut Plantevin, et les traditionnels 13h. Voilà. Donc, sur les deux places, hein, en bas, c'est culturel, et demain soir, sur la place de Noël. Voilà.
Très bien, écoutez, il est 20h15, merci pour votre attention, votre patience, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous invite, si vous le voulez bien, à prendre un rafraîchissement après ces longs débats. Merci.